RCF.
Père Michel, Marie Zanotti Sorkine, bonjour.
Bonjour à vous, chère Élise.
Et merci d'être avec nous depuis Paris où vous résidez, à deux jours aussi de votre venue dans la région, puisque vous rencontrez des équipes AFC ce samedi, pour parler d'un ouvrage, un nouvel ouvrage pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique. C'est paru au début du mois aux éditions Artege, un nouveau livre que vous avez écrit. Père Michel-Marie, après une rencontre avec un jeune lors d'un mariage qui vous interpelle sur l'état de l'Église aujourd'hui, comment vous la voyez, vous, l'Église, aujourd'hui ?
Mais vous savez, l'Église est composée de tous les baptisés. Alors par conséquent, l'action de chacun donne un visage à l'Église. Par conséquent, c'est très difficile de généraliser, mais l'Église, si vous voulez, c'est cette réalité, c'est un véhicule qui transporte la vérité, tout simplement, c'est-à-dire le Christ lui-même avec tout ce qu'il nous a apporté. Et on ne peut pas, si vous voulez, définir ce qu'est vraiment l'Église au-delà de cette action de tous les baptisés.
Vous appelez aux armes, c'est le premier chapitre de votre livre, Père Michel-Marie Zanotti Sorkine, donc avec cette rencontre avec ce jeune qui vous dit carrément de monter au front. L'Église doit prendre les armes aujourd'hui.
Les armes de l'amour, bien sûr. C'est un témoignage de chaque baptisé, je le redis, qui est attendu aujourd'hui. Vous savez, très souvent, on accuse la société d'abîmer l'Église. C'est vrai qu'il y a peut-être des êtres parmi nous qui ne l'aiment pas, qui s'y opposent. Mais je rappelle quand même que l'Église, c'est-à-dire l'œuvre du Christ, qui est continuée par tous les baptisés, elle s'est toujours développée dans des contextes d'opposition, pour ne pas dire de persécution. Par conséquent, nous ne pouvons pas toujours accuser la société de nous empêcher d'être nous-mêmes. Il s'agit d'une remise en cause très profonde, et c'est l'idée de révolution, finalement, que chacun doit vivre pour que l'Église rayonne davantage.
Rayonner davantage, vous donnez donc 13 commandements à ce sujet. Pourquoi pas 10 d'ailleurs ? Pourquoi 13 ?
13, bah écoutez, c'est un chiffre qui porte bonheur en principe.
L'immersion dans l'Évangile, le cœur à cœur avec le Christ, la confiance en Marie également. Bref, tout un tas de conseils que vous donnez aux chrétiens pour se remobiliser aujourd'hui. Vous vous laissez donc interpeller par ce jeune au début de votre livre qui n'y va pas de main morte. En vous disant notamment, je le cite, « On a parfois l'impression que vous, les prêtres, vous passez votre temps perché sur les neiges éternelles à nous regarder, à juger nos actions, obsédés par le péché. » Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ce jeune vous a interpellé vis-à-vis de l'attitude des prêtres aujourd'hui ?
Je ne l'ai absolument pas rejeté dans ce qu'il me disait. Au contraire, j'essayais de l'écouter, de comprendre ce qu'il ressentait lui-même. Finalement, peut-être qu'il n'a pas tort, peut-être que nous insistons trop sur cette notion de péché, de faute morale, peut-être faut-il accueillir les êtres davantage dans ce qu'ils vivent et puis essayer de les rapprocher du Christ. Moi, c'est vraiment mon idée, et c'est le Christ lui-même qui, à l'intérieur du cœur humain, permettra à chacun de prendre conscience de ce qu'il vit et de ce qu'il doit vivre.
Dans le chapitre consacré à votre, ce que vous appelez votre plan d'attaque, Père Michel-Marie Zanotti Sorkine, vous parlez du pape, des évêques, donc des prêtres, des diacres, des religieux, des séminaristes et des baptisés également. Vous avez un regard critique aussi sur la place du prêtre aujourd'hui. Je vous cite, les prêtres ne laissent jamais indifférents, pour faire court, plaisent ou déplaisent, sous toutes les coutures. Ils sont regardés, épiés, jugés le plus souvent avec rudesse par des individualités comme par des collectifs. Vous souffrez de ce regard porté sur les prêtres aujourd'hui ?
Je ressens beaucoup de peine. Parce que d'abord, je pense que c'est injuste. Les prêtres travaillent, se donnent beaucoup de mal. Mais surtout, ils doivent être soutenus d'abord par leur hiérarchie, puis ensuite par tous ceux qui les entourent. Moi, je suis très frappé. Vous savez, à Paris, moi, je me promène dans les rues de Paris. Je travaille à droite et à gauche. Par conséquent, je croise beaucoup de gens et je ne vois pas beaucoup d'animosité. Mais au sein de l'Église, il faut le dire, dans nos paroisses, dans nos mouvements, très souvent, les chrétiens ne sont pas contents des prêtres qui leur sont donnés. Ils les voudraient autrement. Ils les voudraient dans une autre lumière, plus conforme à ce qu'ils portent en eux. Et je le regrette. Vous voyez, il n'y a pas un accueil suffisant de la personne humaine du prêtre, tel qu'il est, avec son caractère, son tempérament, qu'importe après tout, même s'il a mauvais caractère, il lui revient évidemment de corriger tout cela, mais de la part des chrétiens, il doit y avoir une volonté d'accueil très grand du prêtre qui leur est donné par leur évêque.
Comment vous expliquez justement cette attitude ? Est-ce que ça peut être dû aussi au cléricalisme dénoncé par le pape François, la place du prêtre qui a peut-être faussé les rapports entre, d'un côté, le clergé, le peuple de Dieu, d'un autre côté, avec tout ce qui apparaît aussi, hein, l'attitude du prêtre. On pense notamment au père Marie-Dominique Philippe, au père Finet, toutes ces personnalités charismatiques qui ont dévié. Est-ce que ça a changé aussi la défiance du peuple de Dieu vis-à-vis de ses prêtres?
Écoutez, moi je trouve que toutes ces affaires, vous me pardonnerez de le penser, sont tout de même exagérées, en ce sens que 70 millions de Français sont au courant de ce que ces prêtres ont pu faire dans leur vie, s'ils l'ont fait, parce que moi je ne suis pas capable de juger des dossiers qui les concernent, mais en tout cas j'ai l'impression que tout ça est quand même monté en épingle. On peut très bien comprendre la complexité de l'âme humaine, la complexité de la vie d'un prêtre. On peut très bien essayer de regarder comme le Christ regarde les êtres qui sont sur la terre et qui ne sont pas parfait. Comme le disait très bien Anna de Noailles, une de nos plus grandes poétesses, les vivants ne sont pas vénérables. Voilà ce qu'il faut que nous comprenions. Et je suis étonné parfois de voir que dans l'Église, on ne comprend pas la faiblesse des hommes. C'est quand même étonnant. Le pape Paul VI avait dit, mais l'Église doit être experte en l'humanité. C'est le moment de le montrer. Et de montrer que on condamne bien sûr des agissements, mais on ne condamne pas des vies entières. Jamais le Christ n'a enfermé quelqu'un dans les erreurs qu'il a pu commettre. Jamais. Regardez Saint-Pierre, c'est très grave ce qu'il a fait. Peut-être beaucoup plus grave que ce qu'a fait le père Finet ou le père Marie-Dominique Philippe. Prenons par exemple ce cas du père Philippe que j'ai quand même bien connu. Eh bien, écoutez, il y a 70 ans de sacerdoce. C'est immense ça. Il a fait du bien à des milliers de personnes. On trouve dans sa vie 4 ou 5 choses ou 10 choses qui ne vont pas. D'accord, mais remettons tout ça à leur place. Je ne suis pas en train de dire que le bien est dans le mal, que le mal est dans le bien, mais d'appeler les hommes à un regard juste sur l'humain. Vous savez, on a qu'à offrir des pelleteuses à tous les chrétiens de la terre, et puis qu'ils trouvent tous les cimetières de France, et ils vont trouver dans chaque tombe quelque chose qui ne va pas. Et je suis sûr que dans les 5 canonisés, il y a des choses qui n'ont pas été, mais ils s'en sont relevés. Voyez, alors donc, je ne crois pas que ce soit cela qui abîme l'image du prêtre. Ce qui abîme l'image du prêtre, c'est quand il n'est pas assez accueillant, pas assez aimant. Ce ne sont pas ses faiblesses. Le peuple peut même les comprendre, à moins qu'on les formate, si vous voulez, à l'intérieur de l'Église. Ce ne sont pas les faiblesses qui détournent les chrétiens du prêtre. Je dirais, c'est plutôt la dureté de cœur, la méchanceté, la cruauté qui peut surgir parfois chez nous, et même chez moi qui vous parle.
Vous accordez une large place à ce que vous appelez dans votre livre, Père Michel Marie Zanotti-Sorkin, à la folie du pardon. Est-ce que c'est la clé du salut de l'Église aujourd'hui ? Alors, l'actualité parle avec la sortie aujourd'hui du livre de l'ancien archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, qui publie « En mon âme et conscience ». C'est paru, ça sort aujourd'hui chez Plon, où il dit, je le cite, « Je vois bien qu'il me faut porter la honte et le poids de tout cela ». C'est le rôle aussi du prêtre aujourd'hui de pouvoir demander pardon.
Je ne sais pas, j'ai pas lu ce livre, donc je ne sais pas s'il demande pardon, mais ce qui est clair, c'est que c'est la grande clé que le Christ nous a laissée. Vous savez, pour régler d'ailleurs tous les litiges entre les hommes, franchement, il faudrait quand même qu'avant de mourir, on essaye l'Évangile et qu'on ne s'aligne pas sur les solutions mondaines.
Le Christ nous dit. Qu'est-ce que vous appelez les solutions mondaines ?
Eh bien, même la justice humaine, elle est imparfaite. Il faut arrêter de la regarder comme si elle allait absolument tout régler. Disons les choses comme elles sont. La justice, par moments, elle est injuste. Trop de justice produit de l'injustice. Il faut faire très très attention avec ça. Tout ne se règle pas avec le procureur. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler de cœur à cœur. Ça, c'est très important, vous voyez. Et le Christ, regardez comment il fait quand il est devant quelqu'un qui est coupable. Il le soulève par son pardon. Il lui redonne sa chance. Il lui dit, allez, mon chéri, repars sur la route. Arrête, ferme la porte à ton passé. Tu peux être tout neuf en un instant. Ou alors, on ne croit plus dans le mystère de la grâce.
L'immersion dans l'évangile, c'est la première clé que vous donnez, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, dans votre ouvrage pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique. Cette urgence évangélique, elle commence par quoi? Comment, pour parler pratico-pratique, on doit s'immerger dans l'évangile? On
l'a voilà, dit, ça je le crois.
On l'entend tout le dimanche.
Oui, non, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de l'entendre, il faut vraiment le traverser avec son cœur, l'intérioriser. Vous voyez, je pense que qui ne lit pas l'évangile tous les jours est un imposteur. Je le dis bien simplement, même deux versets. Mais c'est la parole de notre Dieu, de notre amour, de notre ami qui est le Christ. Il s'agit de prendre cette parole très au sérieux et de tout faire pour la mettre en pratique. Et je crois que sans cette immersion, même si on connaît toutes les encycliques papales, même si on connaît toute l'histoire de l'Église, même si on a une licence en théologie, en tout ce que vous voudrez, en patristique, il faut aller au cœur de la source et y boire abondamment. Et ça, tout homme peut le faire. L'Évangile devrait rester un livre ouvert dans la maison. On passe là dans la cuisine, on voit ce livre ouvert, on lit un verset et on s'y confronte. Mais je vous le dis, tout le problème d'aujourd'hui vient d'une trahison de la pensée du Christ. Toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est parce que l'évangile n'est pas mis en œuvre suffisamment par moi qui vous parle et puis par tous mes confrères et puis tous les baptisés. Personne n'est au point sur ce plan-là.
On trahit l'évangile, Père Michel-Marie, c'est-à-dire de quelle manière on le trahit, l'évangile?
Ben, par exemple, regardez, Jésus dit, je prends un exemple très simple, puisque vous avez évoqué tout à l'heure cette question au fond de notre attitude vis-à-vis des coupables. Jésus a dit, ne jugez pas. C'est simple quand même, non? Ne jugez pas. Et il ajoute même une clause qui pourrait nous faire peur, mais elle ne nous effraie pas, car je vais vous juger de la manière dont vous vous jugez. Là, c'est un commandement formel du Christ. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on juge à longueur de journée. Alors vous allez me dire, on peut juger des situations. Oui, mais pas pour condamner. Il faut faire très attention. Ça, c'est Dieu notre Père qui s'en occupe. Parce qu'il descend, lui, ce que nous ne sommes pas capables de faire, dans les intentions profondes des personnes. Là, vous voyez, je vous parle avec toute ma passion, il n'y a pas de la colère dans ma voix, c'est toute cette passion, cet amour que j'ai de l'évangile, et je regrette qu'aujourd'hui, cet évangile ne soit pas assez connu. Jésus n'est pas connu par le monde, et même dans le monde chrétien, quand vous voyez des hommes de 80 ans vous dire que les Noirs devraient disparaître de la terre, je ne sais pas moi, ils sont racistes à mort, ou alors ils ne comprennent pas ceci, ils ne comprennent pas cela, alors qu'il faudrait un peu d'humanité, il suffirait d'un peu d'humanité pour comprendre telle ou telle situation, ben c'est vraiment regrettable. Même si on est allé tous les dimanches à la messe pendant 80 ans, c'est regrettable. Il y a eu un manque d'immersion dans l'évangile.
Entre l'amour de l'évangile, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, et l'amour de l'Église, est-ce qu'il y a une différence? Et d'ailleurs, est-ce que c'est le rôle des chrétiens de remettre en question le fonctionnement de l'Église?
Non, le fonctionnement, non. Mais de toute façon, le fonctionnement, il est établi. Hein, on voit bien, mais voyez par exemple, dans les paroisses, quelquefois il y a des prêtres qui m'écrivent et qui me disent qu'ils n'ont, entre guillemets, mais comprenez-moi bien, aucun pouvoir décisionnel. Il y a des conseils, il y a beaucoup de choses, très bien, les laïcs aussi sont chargés surtout de la diffusion de l'évangile dans le monde, mais ils n'ont pas été créés non plus pour diriger dans le temple. Et un prêtre qui a reçu la mission d'enseigner, de sanctifier, de gouverner, doit pouvoir le faire dans son église. Donc si des chrétiens remettent en cause ce fonctionnement, ils se trompent. Il faut qu'ils accueillent leur prêtre dans la nature même du sacerdoce.
Et dans leur vœu d'obéissance. Vous dites des évêques, par exemple, que le risque pour l'église est de ne s'occuper que des affaires internes. Or, vous les appelez à se rendre au café pour être en contact direct avec la vraie vie. Le pouvoir décisionnaire commence par là.
Le pouvoir décisionnaire, vous savez, les évêques, quand vous les fréquentez un petit peu, moi j'ai mon évêque par exemple de Marseille, je vois très bien tout le mal qu'il se donne pour répondre aux attentes de son peuple. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas critiquer comme ça en bloc, mais il est évident que les affaires internes de l'Église ne doivent pas ravir tout leur temps, mais eux-mêmes vous le diront. Ils le regrettent sans doute même parfois. Il faut se dire qu'il y a actuellement 4% de la population qui pratique. Vous avez 96% des gens qui sont dehors, dont la plupart sont baptisés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils ne sont pas attirés par ce qu'on leur apporte. Ça ne leur dit rien, la messe ne leur dit rien. Non mais, je généralise un peu, mais c'est la vérité. Vous n'avez qu'à faire une enquête autour de vous et vous verrez. Alors les évêques se débattent comme les prêtres avec cette situation. Mais il est évident qu'il n'y a qu'une chose qui peut réparer cela, c'est la présence dans la vraie vie, c'est-à-dire d'être présent au milieu de son peuple, en étant bien signifiant, en reconnaissant le prêtre dans son quartier, l'évêque dans son diocèse. Et je pense que tous ceux qui apportent quelque chose, comme mon évêque que j'aime beaucoup, celui de Marseille, Mgr Aveline, je vois qu'il est au milieu de son peuple, il sort, on le voit, on le rencontre, il sourit, il parle avec les uns, avec les autres. C'est par ce moyen-là que les êtres qui ne sont pas opposés à la foi, je vous assure, ils ne sont pas opposés, leur cœur est fait pour Dieu. C'est à ce prix-là que tous ces êtres, sentant cet amour de leur évêque, sentant cette proximité, remontent dans les bras du Christ.
Dans votre chapitre consacré à votre plan d'attaque, Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, pour une révolution spirituelle, donc vous parlez, je le disais tout à l'heure, du pape, des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses, des séminaristes, des baptisés. Où sont les femmes, Père Michel-Marie ?
Ben, elles sont partout. Parce que si vous regardez aujourd'hui dans les paroisses, dans les mouvements, heureusement qu'elles sont là, parce que ce sont elles, au fond, qui tiennent pratiquement tout. Comme dans une famille, c'est la mère, finalement, qui est quand même le centre de toute chose. Elles sont partout. Alors, elles sont pas évêques, mais qu'importe, Mère Thérèse n'a pas eu besoin de l'être, la Vierge Marie non plus, pour faire autant de bien.
Mais non, mais elles sont là. Il y a ce mouvement de femmes, toutes apôtres, ce nouveau collectif de femmes au sein de l'Église, qui veulent accéder au clergé, avoir des postes clés au sein du clergé. Elles sont de plus en plus nombreuses, ou en tout cas elles se font de plus en plus entendre, ces femmes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Est-ce que vous comprenez, Père Michel-Marie, leur requête ?
Je le comprends en ce sens qu'elles sont dans leur propre système de pensée. Elles sont convaincues que pour agir, il faut avoir un pouvoir. Alors, on a critiqué pendant des siècles le pouvoir masculin, et maintenant, elles veulent le pouvoir, donc un pouvoir féminin. D'abord, laissez-moi vous dire que je suis absolument convaincu qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Ah, elles sont entendues, comme vous disiez tout à l'heure. Ça, oui, on leur donne la parole, ça plaît à tous les médias de pouvoir entendre ce type de démarche. Mais moi, je pense que le vrai pouvoir de la femme, d'ailleurs comme celui de l'homme, qu'il a intérêt vraiment à maîtriser, c'est le pouvoir de l'amour. C'est l'amour qui donne tout pouvoir sur un cœur humain. Ce n'est pas d'avoir une fonction.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous de tout cœur, chère Élise. Merci beaucoup.